Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi, ici octobre 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. La saison des pluies au Niger a été calamiteuse. Les intempéries ont fait 192 morts et plus de 263 000 sinistrés depuis le mois de juin. Lancement aujourd'hui en Afrique du Sud d'une fondation pour la démocratie en vue de faciliter le suivi des relations entre l'Afrique et la France. Washington accuse l'Organisation des pays producteurs de pétrole de s'aligner avec la Russie après sa décision de réduire sa production. La Corée du Nord a lancé aujourd'hui deux nouveaux missiles balistiques. Ne manque pas dans cette session d'information la Minute Éco et l'Espoir, mais tout d'abord le journal. Les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis juin et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait au moins 192 morts et plus de 263 000 sinistrés, faisant de la saison des pluies cette année l'une des plus meurtrières de l'histoire de ce pays au climat habituellement sec. Jacques Aristide.
Les régions les plus affectées sont Maradi, Zinder, Dessau et Tarwa. Niamey, la capitale de 2 millions d'habitants, a également connu de fortes pluies qui ont fait des morts et d'importants dégâts. Le bilan des inondations continue de s'alourdir dans ces différentes parties du Niger, alors que la saison des pluies tire à sa fin. Elles ont détruit totalement ou endommagé plus de 30 000 habitations, 83 salles de classe, 6 centres de soins médicaux et 232 greniers à céréales. Près de 700 têtes de bétail ont également été décimées. On peut lier ces pluies-là au changement climatique, affirme le directeur général de la météorologie du pays. Les précipitations sont intenses, tandis que les eaux de ruissellement ne peuvent plus s'infiltrer dans les sols, qui sont déjà dégradés par l'action de l'homme, ajoute Katselou Gabtialawan. La saison des pluies, entre juin et septembre, fait régulièrement des morts au Niger, y compris dans les régions désertiques du Nord, mais le bilan est particulièrement lourd cette année.
Les routiers du Burkina Faso ont entamé aujourd'hui un arrêt de travail en mémoire des 37 victimes de l'attaque fin septembre dans le nord du pays d'un convoi de camions chargés de vivres, parmi lesquels plusieurs chauffeurs. Devant le siège de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, principal syndicat de transporteurs, un grand rideau noir a été tiré en signe de deuil. Des centaines de camions étaient immobilisés dans divers secteurs de la capitale Ouagadougou à l'occasion de cet hommage qui s'achèvera demain vendredi. Le 26 septembre, un convoi de ravitaillement escorté par l'armée à destination de Djibo, la grande ville du Nord, avait été attaquée par des djihadistes présumés. Le gouvernement malien a adopté hier un projet de loi consacrant la militarisation de la police et de la protection civile. Selon un communiqué du Conseil des ministres, cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans des zones reconquises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal, selon le communiqué qui fait référence aux groupes armés rebelles et djihadistes en conflit avec la junte au pouvoir dans une grande partie du pays. La circulation a repris aujourd'hui à Kasumbalesa, important poste frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie, qui avait été fermée la veille après des tensions. La frontière avait été fermée toute la journée de mercredi après des échauffourées ayant éclaté lorsque des Congolais, dont des marchands, avaient tenté de se rendre en Zambie, tandis que des transporteurs zambiens observaient depuis plusieurs jours un mouvement de grève. Les grévistes protestaient contre la mort d'un des leurs, tué en RDC par des habitants d'un village en représailles d'un accident mortel. Lancement aujourd'hui en Afrique du Sud d'une fondation pour la démocratie en Afrique dont le principe avait été décidé au sommet Afrique-France de Montpellier il y a un an. Les précisions de Ginny Niwa.
Présidée par le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, la nouvelle fondation comptera l'intellectuel camerounais Achille Mbembe parmi les membres de son conseil d'administration, précise un communiqué. Ces programmes et outils seront dédiés à un large public, des chercheurs aux artistes, des entrepreneurs sociaux, gestionnaires d'ONG, qui sont actifs dans le domaine de la démocratie, a expliqué Bachir Diagne à l'AFP. penseur majeur du postcolonialisme et enseignant à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, Achim Bembe avait été chargé par le président Emmanuel Macron de préparer le sommet Afrique-France de l'année dernière à Montpellier. Le leader français a annoncé en octobre 2021 la création d'un fonds d'innovation doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros sur 5 ans pour aider les acteurs du changement sur les questions de gouvernance et de démocratie. Ce fonds, qui a ensuite pris la forme d'une fondation, était l'une des principales recommandations d'Achim Bembe.
Le Lesotho, petite monarchie constitutionnelle de 2,2 millions d'habitants, enclavée dans le territoire sud-africain, tient demain vendredi des élections législatives à l'issue incertaine qui aboutiront à la désignation d'un nouveau chef du gouvernement. L'Assemblée compte 120 sièges, dont 80 députés élus au scrutin majoritaire et 40 désignés à la proportionnelle. L'actuel Premier ministre, Motsketsi Majoro, en poste seulement depuis 2020, ne brigue pas de mandat. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce jeudi le lancement d'une campagne de prévention du suicide en Afrique, région qui enregistre selon elle le taux le plus élevé de décès par suicide au monde. L'Afrique abrite 6 des 10 pays ayant les taux de suicide les plus élevés au monde selon un communiqué de l'OMS. La campagne est lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre. Menée sur les réseaux sociaux, elle vise à atteindre 10 millions de personnes dans la région, indique l'OMS Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prix Nobel de littérature Annie Ernaux a promis de continuer le combat contre les injustices sous toutes leurs formes lors d'une conférence de presse aujourd'hui après-midi dans les locaux de son éditeur Gallimard. L'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, âgé de 82 ans, a été récompensé pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle, avait expliqué le jury Nobel. Nous reviendrons sur la vie et l'œuvre d'Annie Ernaux dans la partie magazine de cette édition. Le Kremlin estime que la baisse de production de pétrole annoncée hier mercredi par l'OPEP va stabiliser le marché pétrolier. Washington accuse l'organisation de s'aligner avec la Russie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, les décisions qui ont été prises visent à stabiliser le marché pétrolier. Les représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 alliés ont annoncé une coupe de 2 millions de barils par jour en novembre. Le président Joe Biden se dit déçu de la décision. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, dénonce une erreur. Cette coupe dans la production du pétrole pourrait faire flamber les prix du brut au bénéfice des pays producteurs, dont la Russie. Selon un rapport publié début septembre par un centre de recherche finlandais, depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a engrangé 116 milliards d'euros grâce à ses exportations de pétrole. Mais sa production décline depuis cet été sous l'effet des sanctions occidentales et le recul récent des prix. Les États-Unis essaient d'entraîner les autres pays du G7 et d'autres pays importateurs de pétrole russe à imposer un plafonnement sur son prix d'achat. L'Inde et la Chine sont réticentes car bénéficiant de prix au rabais sur le pétrole exporté de Russie.
La Corée du Nord a lancé ce jeudi de nouveaux missiles balistiques. Elle a aussi fait voler en formation 12 avions de combat, affirmant que les essais d'armes sont de juste mesure de rétorsion contre les États-Unis et la Corée du Sud pour leur exercice militaire dans la région. Les détails avec Nani Talani.
Selon l'armée sud-coréenne, deux missiles à courte portée ont été lancés ce jeudi matin depuis les environs de Pyongyang en direction de la mer du Japon. Les gardes-côtes japonais ont confirmé avoir détecté ces projectiles. Par ailleurs, 12 avions de combat nord-coréens ont effectué un vol en formation au nord de la frontière aérienne intercoréenne et sont estimés avoir effectué des exercices de tir air-sol, selon l'état-major de Séoul. Pour la Corée du Nord, ces tirs constituent les justes mesures de rétorsion contre les manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis qui provoquent une escalade des tensions militaires dans la péninsule coréenne. Ces nouveaux tirs interviennent au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à New York pour évoquer le lancement d'un autre missile nord-coréen qui a survolé le Japon il y a quelques jours. La Chine, alliée et partenaire économique de la Corée du Nord, y a blâmé aussi Washington, l'accusant d'empoisonner l'environnement de sécurité régionale. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont multiplié les manœuvres militaires conjointes ces dernières semaines pour, selon Séoul, renforcer les capacités opérationnelles et pour répondre aux provocations de la Corée du Sud via l'envoi de missiles.
Une tuerie de masse a fait aujourd'hui au moins 38 morts, dont 22 enfants, dans une crèche à Nong Bua Lumpur, dans le nord-est de la Thaïlande, a annoncé la police en précisant que l'auteur des faits était un ancien policier qui a tué sa femme et son enfant avant de se donner la mort. Selon la police, l'assaillant avait été renvoyé l'an dernier de la police pour une affaire de drogue. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Présent la minute quoi avec Nani Talani.
L'économie du Sénégal devrait croître de 4,8% en 2022 contre 6,1% en 2021, annonce la Banque mondiale. Les secteurs agricoles et miniers porteront l'essentiel de la croissance en raison de nouveaux investissements, surtout privés, alors que le secteur des services continue de se remettre de la pandémie de COVID-19. L'inflation devrait atteindre 8,7%, reflétant l'augmentation mondiale des prix du carburant et des denrées alimentaires liées à la guerre en Ukraine. L'Éthiopie devrait exporter du blé en 2023 grâce à l'adoption du programme TAAT, Technologie pour la transformation agricole africaine de la BAD. Ce programme aide les entreprises semencières à produire et à distribuer suffisamment de variétés de blé certifiées et résistantes à la chaleur. Il aidera aussi les exploitants agricoles à étendre la production à davantage de zones. Pour terminer, face au risque croissant de récession partout dans le monde, le FMI appelle les États et les institutions à agir ensemble pour anticiper les crises à venir. Ce risque devrait concerner environ un tiers de l'économie mondiale. Pour le FMI, la première des priorités est d'empêcher les prix de continuer à flamber, car loin d'être transitoire, l'inflation s'installe. Parmi les points d'attention figurent l'investissement dans la santé, l'éducation, des filets de protection plus solides, la numérisation et le développement des infrastructures numériques.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Sénégal toujours premier en Afrique au classement FIFA.
Oui, sur le continent, les Lions de la Teranga, champions d'Afrique, conservent leur trône au classement FIFA du mois de septembre, marqué par la Ligue des Nations pour les équipes européennes et les matchs amicaux pour les sélections africaines et les autres. Le Sénégal est suivi par le Maroc et la Tunisie, deux autres sélections africaines qualifiées pour le Mondial. Le Nigeria est quatrième, l'Algérie double le Cameroun et pointe à la cinquième place. Les Lions indomptables paient ainsi leur mois de septembre décevant avec des défaites contre l'Ouzbékistan 2-0 et la Corée du Sud 1-0. Au plan mondial, le Brésil qui a détrôné la Belgique en mars a conforté en septembre son rang de numéro 1 mondial alors que la France, championne du monde, évincée du podium en juin, stagne à la quatrième place.
Ce qui est des matchs de la troisième journée de la Ligue des champions en Europe.
Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech et Chelsea ont obtenu la victoire qu'ils recherchaient, 3-0 face à l'AC Milan. Manchester City de l'Algérie, Riyad Mahrez, buteur sur pénalty, a fait un grand pas vers les huitièmes de finale grâce à son succès face à Copenhague, 5-0. Après la victoire de Salzbourg face à Zagreb, 1-0, les Autrichiens sont premiers de leur groupe. Dans un stade de la Luz chauffé à blanc, le PSG a été bien secoué par le Benfica Lisbonne et a dû se contenter du match nul, un but partout. Le Real Madrid s'est imposé devant le Shakhtar Donetsk du Burkinabé Franck Lassina Traoré 2-1. La défaite de trop, Roulen Lopetegui a été limogé de son poste d'entraîneur du FC Séville après une nouvelle défaite 4-1 à domicile contre le Borussia Dortmund. L'Espagnol a été remplacé ce jeudi par l'Argentin José Sampaoli.
Abus dans le football féminin américain, l'équipe de Portland licencie deux de ses dirigeants.
La franchise de Portland a dit avoir démis de leurs fonctions le directeur sportif Gavin Wilkinson et le directeur commercial Mike Galoub après les révélations d'abus et agressions sexuelles systémiques dans le football féminin américain. Une enquête accuse Gavin Wilkinson d'avoir dissimulé les accusations d'abus sexuels formulées à l'encontre de l'ancien entraîneur de l'équipe féminine de Portland, Paul Riley. Dans un courriel envoyé en septembre 2015, la joueuse des Thorns, Mana Shim, l'avait alertée, ainsi que Merritt Paulson, des abus à répétition qu'elle subissait de la part de Riley. Ce dernier a été licencié par le club, mais Wilkinson n'a jamais mentionné les accusations contre Riley lorsque le club de New York, Flash, a contacté Portland pour demander des références sur l'entraîneur. L'enquête a concerné plus de 200 joueuses de la Ligue nord-américaine de football féminin.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, certaines résolutions du dialogue national inquiètent la communauté internationale. Dans cette décision de samedi, le dialogue a prolongé de 2 ans maximum la période de transition vers des élections et autorise le général Mahamat Déby, chef du Conseil militaire de transition, à briguer la présidence du pays. L'Union européenne, l'Union africaine et Washington sont préoccupés concernant la durée de la transition et la clause d'éligibilité des autorités qui en assurent la conduite. Pour rappel, ce dialogue est boycotté par une partie de l'opposition, ainsi que la société civile et d'importants groupes politico-militaires. Yacouba Ouedraogo a joint N'Djamena, le politologue Evariste Ngarlem Toldé. Il estime que ces résolutions du dialogue donnent raison à ceux qui l'ont boycotté.
Ça leur donne entièrement raison, parce que le dialogue n'a pas abouti aux conclusions attendues. Le dialogue n'a pas parvenu à concilier l'opposition des partisans du changement et ceux du statu quo. Ce qui fait dire que les Tchadiens, dans leur grande majorité, voulaient qu'il y ait une évolution dans les mentalités. Faire en sorte que pour une fois, à l'issue de ce dialogue, que le pouvoir puisse se passer d'une manière démocratique. Vous savez, ça fait plusieurs années que le Tchad vit de transition en transition, d'un régime militaire à un autre régime militaire. Et les Tchadiens ont espéré que pour cette fois-ci, si les choses étaient bien faites, on arrivera certainement à un président démocratiquement élu. Malheureusement, avec cette résolution, le président du CNT deviendra le président de transition. Il est éligible, donc il ira encore aux prochaines élections. Et en Afrique, il est rare que celui qui organise les élections les perde, donc il va encore gagner les élections d'ici 2 ans. Et on conteste le fait que ce soit lui encore qui poursuive le mandat de son père. Et on va s'installer dans une monarchie ou dans une dynastie héréditaire. Et c'est ce que les Tchadiens ne veulent pas voir. Et malheureusement, ceux qui avaient boudé le dialogue ont raison.
La communauté internationale fait pression. L'Union européenne exprime sa préoccupation. L'Union africaine avait demandé à ce que la transition prenne fin comme prévu dans ce mois d'octobre. Les États-Unis avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que cela va changer quelque chose?
Non, je ne pense pas que toutes ces pressions puissent changer quelque chose dans cette attitude, parce que il faut se rendre à l'évidence, ce ne sont vraiment pas les œuvres des participants ou des délégués au dialogue. Les gens qui ont tiré les ficelles sont quelque part autour du chef de l'État. Donc, que ce soit les pressions, que ce soit les menaces de sanctions et tout ça, ce n'est pas ce qui fera changer d'attitude au régime qui reste droit dans ses bottes.
À quoi faut-il s'attendre suite à ces résolutions du dialogue national inclusif?
Au jour d'aujourd'hui, les écoles n'ont pas rouvert dans le public, la santé est en grève, les magistrats sont en grève, les partis politiques se préparent pour ceux qui ont boudé le dialogue, se préparent donc à manifester. Mais certainement pour les politico-militaires, il n'est pas question que l'actuel président du CNT continue à exercer le mandat après le dialogue. Donc on s'attendra certainement à des convulsions sur le terrain militaire. La population d'une manière générale, la société civile prendra ses responsabilités pour revendiquer donc un cadre meilleur, une bonne santé pour tous, une bonne éducation pour tous.
Le politologue Evariste Ngarlem Toldé à N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'ancien ambassadeur des États-Unis au Cameroun de 2003 à 2007, Niels Marquardt, appelle les autorités camerounaises à libérer Marafa Hamidou Yeya. L'ex-secrétaire général de la présidence a été condamné en 2012 à 25 ans de prison pour détournement de fonds. Mais pour l'ancien diplomate américain, Marafa Hamidou Yeya est plutôt victime de ses ambitions politiques. Abdourahman Dia a joint Niels Marquardt à Portland, dans l'État américain de l'Oregon.
Bon, ça fait 10 ans que je suis très inquiet pour sa situation. J'ai fait beaucoup d'efforts diplomatiques pour obtenir sa libération depuis le jugement contre lui en 2011, je crois. Mais maintenant, la situation devient très difficile à cause de sa santé. Il est presque aveugle, il a des problèmes cardiaques. Et il est devenu assez âgé et je crains pour sa santé et pour sa vie en fait. Et je crois que ni pour lui, ni pour le pays, ni pour la stabilité du Cameroun, est-ce qu'il serait bien qu'on le laisse mourir en prison. Donc je fais appel pour sa libération pour qu'il puisse avoir accès aux soins médicaux qui ne sont pas disponibles pour lui au Cameroun.
Alors, vous dites qu'il est plutôt victime de son ambition présidentielle. Il est condamné à 25 ans de prison pour détournement de fonds. Pourquoi avez-vous cette impression?
D'abord, l'ambassade des États-Unis a assisté au tribunal lorsqu'il a été jugé il y a plus de 10 ans. Ce n'est pas l'ambassade que j'ai dirigée, c'est l'ambassade qu'un successeur à moi a dirigée. Ils ont constaté, comme a constaté les Nations Unies après, qu'aucune preuve n'a été présentée de sa culpabilité. Donc, dans un état de justice, je crois qu'il doit jouir d'une présomption d'innocence actuelle et être libéré. Mais après 10 ans de prison, on ne peut pas dire qu'il n'a pas souffert. Hein. Donc, je fais appel aux autorités camerounaises de le laisser quitter le pays pour garder sa santé et laisser la scène politique, si vous voulez.
Alors, ambassadeur, pourquoi lui? Pourquoi Marafa Hamidou Yaya? Pourquoi pas d'autres? Il y a d'autres détenus, des personnalités connues aussi au Cameroun.
Moi, je n'ai pas suivi tous les autres cas. J'ai suivi ce cas parce que je suis persuadé que sa seule crime a été de partager des confidences avec lui, avec moi, en tant qu'ambassadeur, qui ont été publiées lors de l'affaire de Wikileaks en fin 2010. Donc, il m'avait confié quelques confidences sur la possibilité d'une ambition politique qui allait au-delà des hauts postes qu'il a occupés. Et c'est directement après ça que ce tribunal, qu'il a été saisi et emprisonné. Donc, je crois qu'il y a un lien direct entre les deux.
C'était l'ancien diplomate américain Nils Marquardt.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le prix Nobel de littérature 2022 a été décerné jeudi à la romancière française Annie Ernaux pour son œuvre et son traitement de la mémoire. Elle a écrit une vingtaine de récits et dissèque le poids de la domination de classe et la passion amoureuse, deux thèmes qui ont marqué son itinéraire de femme déchirée par ses origines populaires. L'écrivaine de 82 ans devient la 17e femme à décrocher le Nobel de littérature. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Minneapolis Joël Vettilo, professeur de français et des études francophones à McAllister College dans le Minnesota.
Première femme française à recevoir le prix Nobel de littérature. On a eu bien sûr des hommes qui l'ont reçu, mais c'est quand même une grande avancée de voir ce prix Nobel aller à une écrivaine de cette envergure qui est aussi un peu la mémoire de la culture française, de qu'est-ce que c'était que d'être une jeune fille dans les années 50, 60 et qui a partagé un peu son parcours. Je suis sûre que c'est une inspiration pour beaucoup de femmes de toute génération.
Quel est le roman qui vous a beaucoup plus touché?
Il y en a beaucoup, mais je me souviens particulièrement de tous ces premiers romans, parce qu'on n'avait pas beaucoup de textes d'autofiction, hein, donc c'est pas vraiment des autobiographies, mais c'est une mise en scène oui, d'une biographie. Et aussi, c'était Annie Ernaux parler de catégories sociales qui n'avaient pas beaucoup de place, qui n'occupaient pas beaucoup de place dans la littérature française. Elle n'était pas vraiment dans une classe complètement ouvrière, mais dans une classe marginalisée, qui n'était pas bourgeoise, qui n'était pas complètement urbaine non plus. Et donc, ça donnait des points d'appui, des repères, quand on se sentait un peu exclu des textes. Donc, pour moi, une femme, quand elle parle de sa mère, la place, tous ces livres-là ont été vraiment très importants et je les ai enseignés d'ailleurs parce qu'ils nous parlaient d'une écriture nouvelle et de représentation sociale nouvelle aussi en littérature.
Mémoire de fille également.
Ah oui, des mémoires de fille aussi, c'est certain, parce qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels, beaucoup de discussions qui revenaient dans les textes avec lesquels on pouvait s'identifier, bien sûr. Hein. Donc, et puis, bon, ces romans qui, comment dire, elle a eu, c'est un peu comme de suivre le parcours d'une femme sur toute une vie, n'est-ce pas? Parce qu'elle a parlé de ses maladies, elle a parlé de ses amants, elle a parlé de ses difficultés, elle a fait des textes sur des objets. Le simple fait de parler de sa vie en banlieue aussi, de mettre en scène des activités très quotidiennes, très banales, mais qui forment une vie, qui forment une trame. Ça, c'était important.
C'était Joëlle Vitillo, professeur de français et des études francophones à McAllister College, dans le Minnesota. Retour ce soir sur la visite du président américain Joe Biden en Floride, ravagée par l'ouragan Ian. Hier, Joe Biden a rencontré sur place le gouverneur républicain de l'État, Ron DeSantis, l'un des plus virulents adversaires du président démocrate. Reportage d'Anita Powell et de George Agobian avec le récit de Jacques Aristide.
L'ouragan de catégorie 4 Ian a frappé le Sunshine State la semaine dernière, laissant derrière des scènes de désolation. Un bilan fait état de plus de 100 morts, alors que les dégâts sont pour l'heure évalués à des milliards de dollars. Le président Joe Biden s'est notamment rendu au port de pêche de Fort Myers, l'une des localités les plus touchées. La majorité des 87 000 habitants de la ville vote républicain, une population parmi celles qui enregistre la croissance la plus rapide aux États-Unis. Selon le chef de l'exécutif américain, le gouvernement fédéral a prolongé sa période d'aide à 60 jours supplémentaires dans l'État, et ce, en faveur de toutes les personnes affectées par l'ouragan.
Today we have one job, and only one job.
Aujourd'hui, nous avons un défi à relever, un seul. C'est celui d'assurer que les habitants de Floride obtiennent tout ce dont ils ont besoin pour la reprise complète. Nous sommes l'une des rares nations au monde qui, sur base d'une crise à laquelle nous sommes confrontés, s'en sort mieux après la crise.
Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, également l'un des plus virulents détracteurs du démocrate Joe Biden, a salué la coopération déployée à divers niveaux.
Je pense que l'une des choses que vous voyez dans cette réponse, c'est que nous réduisons la bureaucratie, nous réduisons les formalités administratives, et cela depuis le gouvernement local, le gouvernement de l'État jusqu'au président. Nous apprécions donc l'effort d'équipe.
Andrew Reeves est professeur de sciences politiques à l'Université de Washington à Saint-Louis. Il a été interviewé par la VOA via Zoom.
Les électeurs réagissent vraiment à un président qui agit ou à un gouverneur qui agit d'une manière qui dépasse l'impact de la catastrophe ayant causé des dégâts en premier lieu.
Ron DeSantis veut rempiler pour un nouveau mandat à la tête de l'État de Floride.
Les électeurs ne prêtent pas attention à ces choses 6 mois, 1 an, 2 ans après une élection. Mais DeSantis est candidat à sa réélection et cela se produit juste avant ce moment. Et donc, je crois qu'il est en quelque sorte la personnalité politique la plus intéressante dans ce contexte pour voir comment il émerge de la situation une fois que tout est dit et fait.
Mais pour l'heure, ce ne sont pas les élections de mi-mandat prévues en novembre qui préoccupent les Floridiens.
But we know the feeling, that feeling about
Nous connaissons le sentiment, ce sentiment de savoir où vais-je dormir ce soir, comment ça va marcher, est-ce que mon enfant ira bien.
Même s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde politiquement, le président et le gouverneur ont voulu porter un message commun aux habitants de la Floride en les assurant que ça va aller.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur nos sites internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.